Monsieur venait de disparaître dans un de ces abîmes sans fond dont la vue seule fait frissonner.
Oh.
Alors, une seconde.
Eugène Labiche, 1815-1888.
Tu veux jeter de la poudre aux yeux?
C'est vrai, j'en conviens.
Ah!
Mais en cela, je ne fais que suivre l'exemple de mes contemporains. Pourquoi fait-on de la toilette? Pourquoi a-t-on des diamants, des voitures, des livrées? Pour les yeux des autres.
Oh non, non.
En mars, l'Odéon à Paris donnait encore une nouvelle version de la poudre aux yeux. Le monde se félicitait et citait Stéphane Mallarmé. Les bourgeois du vaudeville sont vraiment d'abolis bibelots, d'inanité sonore. Beaucoup de personnalités, cataloguées très modernes, ont en effet aimé travailler au corps le bon vieux Labiche. À l'Odéon, c'était le Suisse Christophe Martaler qu'il mettait en scène. Patrice Chéreau et Jacques Lassalle avaient fait de même, et bien avant eux, Orson Welles soi-même. Et oui, Labiche peut opérer la rencontre entre l'avant-garde et le vaudeville. Il était lui-même le produit d'une synthèse. Il avait été un jeune homme de goût artiste, mais comme il était fils et gendre d'industriels, il savait les exigences de la production. Plutôt que de faire du sucre de glucose comme sa famille, il fabriqua des comédies, mais marquées par un don d'observation impitoyable, tracé au cordeau. Flaubert et Zola l'admirèrent pour cela. Le succès aidant, il publia jusqu'à 176 pièces entre 1838 et 1877, puis il fut élu à l'Académie française. « Cela n'est pas payé ?» lui demanda une dame de la haute qui avait offert un dîner en son honneur, à quoi il répondit « Non madame, mais ça nourrit !»
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Jean-Claude Dion, bonjour.
Bonjour.
S'il est un grand spécialiste, pardon, un vrai amateur.
C'est vrai.
Du spectacle du 19e siècle, c'est vous, je citerai entre 10 autres livres, votre histoire du théâtre à Paris au 19e siècle chez Aubier. C'est un très vaste champ d'exploration, le théâtre à Paris au 19e siècle. Je donnais le nombre de pièces publiées par Labiche. 32 000 pièces, selon vous, ont été produites au long
oui,
du 19e siècle.
Et Labiche, avec ses 176 pièces, finalement, fait un peu petit bras, si je puis dire. Scribe, dont on va sans doute reparler, 425 pièces. Le record étant celui de Clerville, autour de 600 pièces. Donc effectivement, on est déjà dans une production industrielle, hein, cette littérature industrielle que Sainte-Beuve voue aux gémonies.
Avant d'être le continuateur, voire le successeur, d'Eugène Scribe, dont vous allez nous reparler. Il a été un jeune homme romantique, hernaniste, comme on disait autour de 1830, un admirateur de Victor Hugo. Mais voilà, son papa était industriel, son gendre était industriel, et il fallait occuper une position sociale.
Alors c'est vraiment un Labiche naît dans un milieu favorisé. Son père effectivement est un épicier. Quand on pense à ce qu'est la figure de l'épicier sous la plume de Théophile Gautier ou des romantiques, ça fait rire. Est un épicier, puis il va fonder une usine de sirop et de fécule de glucose à Rueil-Malmaison.
Vous appelez ça être privilégié?
Bah, en tout cas, il a la possibilité de faire de bonnes études. Il va même ensuite poursuivre des études de droit, comme tout jeune homme de bonne famille à cette époque. Mais bien évidemment, c'est le théâtre qui l'attire. Et donc, comme vous l'avez rappelé, il est d'abord un romantique, parce que comment ne pas être romantique quand on a 20 ans dans les années 1830. Mais finalement, il arrive en tant qu'auteur au moment où le romantisme commence un peu à s'essouffler. Sa première pièce, c'est 1838. Alors, c'est l'année où les romantiques ont enfin obtenu la création d'une salle qui est le Théâtre de la Renaissance, ouvert par Huy Blas, ce qui est pas rien. Mais le romantisme commence déjà à lasser et finalement Labiche va, en voulant faire du vaudeville, va s'éloigner assez rapidement de cet enthousiasme.
Alors,
de jeunesse.
On n'a pas parlé du beau-père qui est un riche industriel aussi, et c'est un privilégié parce qu'il est minotier à Gonesse, mais il a un château à la campagne. Enfin, dans l'Île-de-France rurale.
Et Labiche vraiment est, de par donc son mariage et de par son ascendance, le bourgeois qu'on va retrouver dans ses pièces. Perrichon, c'est lui-même, d'une certaine façon.
Vous dites que c'est le continuateur ou le successeur d'Eugène Scribe qui a, comment dire, fixé, codifié le vaudeville
Alors, il y a trois grands noms dans l'histoire du vaudeville au 19e siècle. Il y en a deux qui sont encore très connus. C'est ceux de Labiche et de Feydeau. Mais avant eux, on a d'abord Scripps qui, à partir de 1820, va complètement révolutionner le vaudeville en créant ce qu'on appelle la comédie vaudeville et notamment en apportant l'élément qui, pour nous semble l'élément central de la vaudeville, à savoir le quiproquo, une intrigue extrêmement bien ficelée. Scripps disait, une fois que j'ai fait mon plan, mon concierge peut écrire ma pièce. D'une certaine façon, c'était vraiment cette mécanique dramatique qui sera portée au summum par Feydeau plus tard, et Labiche en fait va reprendre cet héritage, mais on va le voir en ajoutant le style, en ajoutant la vérité d'observation.
Le premier succès, c'est au théâtre du Palais Royal. En août 1851, nous sommes quelques semaines, quelques mois avant le coup d'état du prince président. Surprise, le chapeau de paille d'Italie, c'est le premier triomphe donc de Labiche, le voici présenté par Claude Lévi-Strauss, qui ose une comparaison avec Œdipe Roy.
J'ai été frappé qu'en fait, il exista une pièce de Labiche, un chapeau de paille d'Italie, qui, par sa construction, est rigoureusement identique à celle de Sophocle. Dans les deux cas, l'intrigue est en quelque sorte déclenchée par la présence de deux personnages, dans Sophocle, un aveugle qui est Tirésias et qui sait absolument le fin mot de l'intrigue, mais personne ne veut le croire parce qu'il est en quelque sorte dévalorisé par son infirmité, et dans la pièce de Labiche, l'oncle Vésiné, qui lui est sourd, qui tient dans ses mains tout le nœud de l'intrigue, puisqu'il a donné le fameux chapeau de paille dont personne ne consent à s'occuper et auquel on ne prête pas attention parce que son infirmité, la surdité, le dévalorise aux yeux du public.
Mais faites attention, c'est mon cadeau ! C'est un chapeau de paille d'Italie !
Comment ?
D'Italie ?
Je l'ai fabriqué de Florence, ça m'a coûté 12 ans.
De Florence, est-il possible ? Et moi, je l'ai cherché depuis ce matin, et il était là ?
Mais
oui, il est là. Il est conforme, avec des coquelicots, des coquelicots. Oh ! Dis-moi l'oncle, fais dîner. Ah ! Oh ! J'ai le chapeau ! J'ai le chapeau.
Le rapprochement entre Lévi-Strauss et un film de Fernandel de 41, il faut oser, hein. C'est quoi ce chapeau de paille?
Ah, c'est vraiment déjà la pièce qui lance vraiment
Labiche. Mais le chapeau de paille lui-même.
Eh ben, c'est un cadeau de mariage qui se trouve avoir été mangé par un cheval. Du coup, la responsabilité même de toute l'affaire est remise en cause. Et donc, le héros, le jeune premier qui va se marier, Fadinard, va passer toute la pièce, ces cinq actes de la pièce, à la recherche de ce fameux chapeau. Et donc,
parce que son mariage tient au chapeau. Fadinard, c'est un jeune fat qui va épouser
une
famille de pépiniéristes de Charentonneau,
avec son gendre, avec son beau-père qui en permanence lui dit mon gendre tout est rompu et qui se balade avec son myrte à la main.
Son myrte?
Oui.
Qu'est-ce que c'est un myrte, Jean-Claude?
C'est une plante, je crois, mais alors je
suis
très mauvais
botaniste. Bah oui, c'est un pépiniériste, ah bah oui, monsieur Nonancourt.
Mon gendre, tout est rompu. Vous conduisez comme un paltoquet.
Mais papa!
Silence, ma fille. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Toute la noce est en bas. Oui, fiacre.
Un coup d'œil magnifique.
Eh bien, vous deviez nous recevoir au bas de l'escalier.
Pour nous embrasser.
Pourquoi êtes-vous parti ce matin de Charentonneau sans nous dire adieu? Répondez.
Dame, vous dormiez.
Pas vrai. C'est parce que nous sommes des gens de la campagne, des paysans.
Des pépiniéristes.
C'est vital pour Fadinard, le mariage, parce qu'il a des dettes. La question matrimoniale, et au-delà toutes les questions familiales et notariales, c'est au centre de beaucoup des pièces de Labiche.
C'est globalement au centre d'une bonne partie du répertoire du 19e siècle. Mais effectivement, Labiche comme Scribe reprend ce thème qui est inépuisable. Une chose, vous avez cité le fait que le chapeau de paille d'Italie a été créé au mois d'août. C'est intéressant parce qu'en fait, lorsqu'on crée une pièce au mois d'août, c'est que personne n'y croit parce que c'est la saison basse. Et effectivement, cette pièce qui, pendant cinq actes, trimballe cette noce complètement burlesque à travers tout Paris. Personne n'y croyait, ni le directeur qui l'avait programmé à ce moment-là, ni les acteurs même. Et c'est vraiment ça qui va lancer la marque La Biche, à savoir effectivement une quand même un côté burlesque très très marqué et qui fait comprendre pourquoi ce répertoire peut encore plaire beaucoup à des metteurs en scène de nos jours.
Mais le directeur, il a quand même un peu de flair, même s'il ne prévoit pas un tel triomphe. Il s'appelle Dormeuil, il est au Palais Royal. C'est un métier à l'époque.
C'est un métier,
qui se professionnalise, directeur de théâtre.
C'est un métier qui fascine complètement, peut-être comme directeur aussi d'une chaîne de radio, je sais pas, des choses comme ça. En tout cas, c'est vraiment un métier extrêmement intéressant, parce qu'il faut, pour un bon directeur, être ce que Christophe Charles appelle un homme double. Il faut à la fois être un bon chef d'entreprise et puis en même temps avoir un sens artistique et notamment savoir donner à son identité, à son théâtre, pardon, une identité forte. Et pour le Palais Royal, qui a vraiment la troupe comique la plus extraordinaire de tout le siècle et sur laquelle La Biche va s'appuyer, puisqu'il écrit vraiment pour des acteurs précis. Le Palais Royal, c'est vraiment le temple de la gaieté, de la folie, avec cet aspect vraiment burlesque que seul Offenbach en musique pourra à un moment concurrencer.
Vous faites le rapprochement avec les télés ou les radios d'aujourd'hui. Il y a souvent des claques dans les studios d'émissions publiques, des chefs de claques. Il y a ça aussi dans les théâtres.
C'est une position formidable. Quand vous n'avez pas d'argent au 19e siècle, vous voulez rentrer au théâtre tous les soirs, faites-vous embaucher par un chef de claque qui a ses hommes un peu partout. On les appelle les chevaliers du lustre, parce qu'ils sont effectivement sous le lustre, et le chef de claque participe aux répétitions, il est payé par les auteurs, par les acteurs, et on a des gens qui savent très bien, parce que à la fois applaudir, rire, mais même s'évanouir. On a aussi des claqueuses femmes qui ont ce talent pour s'évanouir au bon moment.
Mais vous faites un curieux rapprochement entre le chef de claque et le notaire, parce que le notaire et le chef de claque, ils connaissent les secrets.
Oui.
Tous les fonctionnements, tous les ressorts.
Voilà, ils sont... Et d'ailleurs, La Biche a écrit une pièce
qui s'appelle
Un notaire à marier, qui montre bien effectivement la profession notariale vue de l'intérieur.
Et... Parce que je reviens aux questions du mariage et aux questions de contrat de mariage. On parlait de La Poudre aux yeux qui a été adaptée à sa façon à l'Odéon par Marteller ce printemps. Ici, voici un extrait plus classique, Louis Arbessier et Françoise Seignet, dans une mise en scène de Jacques Charon. Alors, Louis Arbessier, c'est le docteur Malingard. C'est un fruit sec de la faculté, il n'a pas beaucoup de clients, mais Madame Malingard, Françoise Seignet, elle a de la ressource pour jeter de la poudre aux yeux aux Ratinois. Il est question de faire épouiller la fille Malingère
au
petit Ratinois.
Tu veux jeter de la poudre aux yeux?
C'est vrai, j'en conviens.
Ah!
Mais en cela, je ne fais que suivre l'exemple de mes contemporains. Pourquoi fait-on de la toilette? Pourquoi a-t-on des diamants, des voitures, des livrées? Pour les yeux des autres.
Allons donc!
Mais toi-même, sans t'en douter, tu obéis à l'entraînement général.
Moi?
Te souviens-tu de cette petite chaîne d'orfin qui attachait ta montre?
Oui, bien.
Elle était si petite, si petite. Tu en avais honte. Tu la cachais sous ton gilet.
Et pour ne pas la perdre.
Oh non! Pour ne pas la montrer. Nous l'avons remplacée par une autre. La voici.
Mais...
Énorme. Un câble. Tu la caresses. Tu l'étales. Tu en es fier. Mais tu te gardes bien de dire qu'elle est en imitation.
Mais tu dis des folies,
c'est
quoi, non?
C'est de la poudre aux yeux. Je t'y prends comme les autres. Eh bien, ta fille, c'est la petite chaîne d'or. Bien vrai, bien sage, bien honnête. Aussi, personne n'y fait attention. Laisse-moi l'orner d'un peu de clinquant.
Alors, à ceux qui pensent aux montres aussi grandes que des lunes qu'il faut porter maintenant au poignet, précisons, à l'époque, c'était montre gousset, dans le gilet. Évidemment, les Ratinois eux-mêmes, ils jettent de la poudre aux yeux aux Malingard.
Et notamment, les deux familles vont au théâtre italien, parce qu'il faut avoir une loge au théâtre italien si on appartient à la haute société à l'époque, et ils s'ennuient mortellement en écoutant des opéras de Verdi auxquels ils ne comprenaient rien.
Vous avez vu, Jean-Claude Dion, sont les femmes là qui mènent le jeu. On n'a pas entendu Madame Ratinois, mais elle pousse Monsieur Ratinois au combat, et idem pour Madame Malingard.
Alors c'est assez exceptionnel dans le répertoire de La Biche qui effectivement n'a pas beaucoup de grandes figures féminines et qui notamment a des jeunes filles toujours un peu effacées. On peut avoir des épouses un peu plus intéressantes, mais avant tout c'est un répertoire de rôles d'hommes et de bourgeois.
Dans le vaudeville, il y avait une bonne part de couplets. à cette époque où monte le succès de la biche, se constitue aussi peu à peu le genre de l'opérette. Entre les 10 livres que vous avez consacrés au théâtre au XIXe siècle, on ne peut pas ne pas citer Offenbach, votre Offenbach.
Alors ça, c'est le drame de la biche, l'apparition de l'opérette. Et d'ailleurs, à la fin de sa vie, quand il quitte la scène dans les années 70, il se plaint que c'est l'invasion de l'opérette, qu'on pourra plus faire de bons théâtres, etc. Et c'est vrai que donc l'opérette va représenter une forme de concurrence d'autant plus grande que le vaudou lui-même va perdre ses couplets, va cesser d'être un genre musical. Et d'ailleurs, la biche n'aimait pas beaucoup la musique, même s'il a été librettiste.
Ici, librettiste, sur une musique de François Bazin, il imagine un voyage en Chine. C'est toujours une histoire de mariage. Le problème, là, c'est que le prétendant est bègue, alors qu'il est pourtant chanteur de son état.
C'est depuis peu que vous avez ce...
Quoi ?
Ce léger défaut de prononciation ?
Non, c'est de naissance.
Mais cet hiver, nous vous avons entendu chanter.
Quand je chante, ça ne se voit pas trop.
Là, vous voyez bien. Ah oui, mais en ménage, on ne peut pas toujours chanter. Ah, voici ces dames.
Ne parlez pas. Ne parlez pas, surtout.
Je vous présente ici ma femme et mes deux filles.
Elles sont gentilles.
Ne parlez pas, chantez.
Présentez-nous le don.
Alidor de Rosanville.
Alidor, Alidor, un joli nom. Soyez le bienvenu dans ce modeste asile.
Chantez, chantez.
Je suis vraiment confus de tant d'honneur et mon âme est sensible à cet accueil flatteur.
Pas le moindre bégaiement.
Il doit faire un mari charmant.
Vous avez vu, monsieur, dans plus d'une soirée, cet hiver, et c'est lui dont la voix inspirée chantait si bien cet air, ce grand air.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Eugène Labiche, né en 1815, en mai 1815, avec Jean-Claude Yon, on entendait dans le rôle d'Alidor, Gaston Ray avec les chœurs et l'orchestre lyrique de la RTF en 1954. Offenbach, dont vous parliez, l'opérette, c'est souvent les bouffes parisiens. Certains historiens disent que quand Labiche ne joue pas, n'est pas joué au théâtre du Palais Royal, c'est qu'il cherche aux bouffes parisiens, aux variétés dans d'autres théâtres, à avoir moins d'ennuis avec la censure qu'il n'en a au Palais Royal.
Alors ça, c'est assez compliqué, on va pas rentrer dans ce débat, parce que c'est sûr que les censeurs pensent aussi au public des différents théâtres et peuvent être plus ou moins sourcilleux par rapport à la même pièce qui va être montée dans tel ou tel théâtre. Ce qui est certain, c'est que Labiche, globalement, a eu pas mal de soucis avec la censure et que ses pièces ont été beaucoup modifiées, puisque elles touchaient notamment à des aspects de mœurs qui pouvaient être un peu délicats. La pièce qui a été le plus censurée, c'est une pièce qui s'appelle La Sensitive et qui porte en fait sur l'impuissance masculine. Ce que le titre le suggère, puisque c'est une plante qui se rétracte au toucher, la sensitive.
Vous voyez que vous êtes très compétent en matière de pépinière.
Vous voyez, je suis très botaniste grâce au vaudou, le vaudou Manitou. Et effectivement, la biche a beaucoup de soucis et avec la censure en général, comme Offenbach d'ailleurs.
Alors c'est une joie pour l'historien d'aller dans les archives et de retrouver les rapports des censeurs. C'est une joie pour le documentaliste de Radio France, en l'occurrence Inka Negulesco, pour cette émission, de retrouver la première interview qui est jamais donnée à la radio à France Culture en 1966. Patrice Chéreau, quand il a monté, non pas au gymnase, non pas aux variétés, non pas aux bouffes parisiens, mais simplement au petit Trois Baudets, l'affaire de la rue de l'Oursine en 1966.
Ah oui, c'est du Curaçao.
De Hollande.
C'est d'où ?
De Hollande.
Ça fait du bien.
Il s'agit de l'histoire de deux petits bourgeois qui se réveillent un matin et qui sont accusés par leur entourage, par les circonstances, d'avoir tué dans la nuit une charbonnière. En fait, ils se réveillent, ils ont la gueule de bois. Et ils ont du charbon sur les mains, enfin, et toutes sortes d'indices qui les accusent, plus ou moins.
Toujours ce charbon qui reparaît.
comme la tache de sang de ma bête.
Les miennes aussi.
Oh non, je veux plus tuer de charbonnière. C'est trop salissant. Vite, de l'eau.
Une brosse, du savon.
Il croit rencontrer deux témoins, leurs domestiques, qui les accusent, puis un autre client qui leur demande de l'argent. Il croit que c'est pour les faire chanter, et il se décide à les tuer. Ensuite, constatant qu'il ne restait plus aucun témoin sauf eux, il décide de se tuer l'un l'autre. Ils essayent en un sens de réaliser un postulat, enfin, tuer le plus de monde possible pour ne pas être accusé de meurtre.
Alors, notre réalisateur Stéphane Ronxin est un spécialiste du cocktail. C'est bien Chéreau. Les extraits qu'on a, c'est pas les extraits de 1966, c'est une mise en scène de Jérôme Deschamps et Macha Makeyev. Rendons à chacun ce qui lui est dû. Chéreau, il avait manipulé le texte, il trouvait que la fin c'était un peu convenu, et il avait décidé de la transformer en y ajoutant des extraits pris de ci, de là, dans des pièces de La Biche. Il était devenu un collaborateur de La Biche, mais de toute façon, La Biche avait toujours des collaborateurs.
Oui, alors juste un mot sur l'affaire de la roue de l'Oursine, qui effectivement explore une espèce de fascination pour le crime, qui va vers le théâtre de l'absurde, et là aussi on voit bien comment cette pièce a un potentiel incroyable et qu'elle a pu séduire le jeune Chéreau, parce que je crois que c'est pratiquement sa première mise en scène.
C'est sa première mise en scène hors du théâtre universitaire.
Et cette pièce, en fait, elle s'intitulait Les Assassins de la Charbonnière, titre qui a été biffé par la censure, qui ont inventé ce titre, le titre L'affaire de la roue de l'Oursine et des assassins littéraires, en tout cas des censeurs. Je crois que même le nom de la rue n'est pas cité dans l'œuvre, c'est les censeurs qui l'ont rajouté. Mais vous parliez de la collaboration et effectivement, La Biche, comme beaucoup d'auteurs du 19e siècle, pour tenir ses cadences infernales, cette production industrielle, avait besoin de collaborateurs, et sur les 176 pièces qu'il a écrites, il n'en a écrit que 7 tout seul. Et donc, il a eu 46 collaborateurs, dont certains étaient des collaborateurs très fidèles, comme Marc Michel, Édouard Martin, etc. En fait, cette pratique de la collaboration, on l'utilise souvent un peu pour amoindrir la valeur littéraire de ce répertoire théâtral, celui de La Biche ou d'autres. Mais si on pense à un cinéaste qui travaille avec un chef décorateur, avec un scénariste, c'est exactement le même type de travail. Et le collaborateur pour La Biche, c'est finalement le premier public, celui avec lequel il échange. Et je crois qu'on peut absolument pas arguer de cela le fait que La Biche n'est pas un vrai et grand écrivain, tout simplement parce qu'il a écrit avec d'autres.
Enfin, il était modeste et puis sceptique sur lui-même, et il disait ben, l'autre écrit et moi je biffe.
Oui, mais en tout cas, au bout du compte, on a parfois dit qu'un deux collaborateurs, c'était un couple. Et pour reprendre un peu les idées du 19e siècle, La Biche est le mâle dans ce couple, c'est lui qui impose sa volonté. Là, je parle comme au 19e.
Un petit jeu maintenant pour les auditeurs. On va entendre de Rochef Chéreau dans ses premières déclarations. Et, chers auditeurs, essayez de deviner avec qui nous l'avons fait dialoguer. Je vous donne un indice, c'est un homme politique de grande importance qui est plutôt à l'époque en fin de carrière, en 1978.
Cet auteur représente avant tout une masse de comportements, de situations, disons un catalogue, un matériel privilégié, de personnes. Ça représente aussi, à mes yeux, c'est le côté négatif de La Biche, à mon sens, un auteur qui écrit, c'est peut-être terroriste de ma part, qui écrit mal. C'est-à-dire, là où j'estime que les situations de La Biche sont fortes, très, très brutales, j'estime que la fable est mal faite. Elle s'appuie sur des comportements très restreints, pour parler en termes brechtiens, disons.
Je vous en prie, ne tombez pas dans le travers qui consiste à vouloir mettre la politique en toute chose. Bientôt, on ne pourra pas admirer un paysage si ce paysage n'a pas une couleur politique. Il y a des pièces de théâtre qu'il faut prendre comme elles le sont, et ce n'est pas parce que ce ne sont pas des pièces à thèse qu'il faut décider que ce sont de mauvaises pièces. C'est une très bonne description d'un certain milieu social avec des personnages, et j'ajoute que La Biche a parfois des jugements sérieux, des jugements sévères.
Qui parle là, Jean-Claude Dion ?
Eh bien, je crois que ça va surprendre beaucoup d'auditeurs. C'est Michel Debré, qui a longtemps été le président de l'association des amis d'Eugène La Biche, et qui avait vraiment une passion pour La Biche, au point même qu'il est allé inaugurer le buste de La Biche dans le petit village Sauvigny, en Sologne, dont La Biche avait été le maire pendant un certain nombre d'années, buste qui avait été enlevé par les Allemands, et c'est Debré qui est allé inaugurer le nouveau buste.
Il aurait pu dire Debré, le vaudeville est français de la tête aux pieds. C'est un genre que l'Europe entière nous envie et qui s'exporte. Mais Il fait quand même de la politique, la biche. Contrairement à ce que prétend Michel Debré, il est maire nommé par le préfet. C'est un grand soutien du Second Empire. Il joue à la cour à Compiègne.
Alors, il a cherché à un moment même à faire une carrière politique, c'est en 1848, où là, il était plutôt du côté des républicains modérés.
Enfin, ça va lui passer assez vite.
Et ça lui passe assez vite, et du coup, il écrit un certain nombre de pièces, et tout à fait hors norme dans son répertoire, de pièces qui critiquent l'actualité politique, qui sont intéressantes à lire comme des documents historiques. Et puis, c'est vrai qu'il applaudit des deux mains au coup d'État de Louis Napoléon Bonaparte, et qu'il est grosso modo conservateur, et qu'il regrette le Second Empire. Mais dans son théâtre, les aspects politiques sont vraiment peu présents.
Mais attendez, avant de regretter le Second Empire, il accède, pendant l'Empire qui devient libéral, à la Comédie Française. Enfin, c'est une grande affaire, hein. Il faut passer le cap des comités de lecture. Il y a des boules,
les membres du comité de lecture
mettent des boules d'une couleur ou d'une autre.
La Comédie Française, c'est horrible pour tout le monde.
Et il y donne, en 1864, moi, et il s'agit toujours de grands bourgeois, maintenant installés et qui réfléchissent à leurs affaires communes.
Vous, un ami de 10 ans, auquel je serre la main tous les jours.
Eh bien, est-ce que je ne vous la serre pas aussi, la main? Une poignée de main, qu'est-ce que ça prouve?
Comment?
Que nous nous connaissons, un peu. Nous vivons de la même vie, nous sommes du même cercle. Vous aimez ce qui est bon, j'aime ce qui est exquis. Nous avons les mêmes goûts et probablement les mêmes vices.
Bien obligé.
Vous êtes riche, j'ai 40 000 livres de rente. Nous sommes certains que nous ne nous emprunterons jamais de l'argent. Donc, poignée de main.
À la bonne heure.
Mais si vous partez de là pour croire que je vais sacrifier une magnifique affaire sur l'autel de l'amitié, ah non, je ne suis plus votre homme, je retire ma main.
Il a raison, au fond.
C'est sensé ce que vous dites là. Il n'y a pas de sentiment là-dedans.
Jacques Cérès, Yves Gasque, c'est une mise en scène récente de Jean-Louis Benoît à la Comédie Française. Et puis après la Comédie Française, il y aura l'Académie Française, etc.
Alors, 10 ans avant moi, en 1854, Labiche écrivait à un de ses amis les plus proches, qui s'appelait Levaux. D'ailleurs, ils ont fait du théâtre ensemble, mais Levaux changeait de nom parce que une pièce signée Labiche et Levaux, ça aurait été un peu bizarre. Il écrivait « Le théâtre du Palais Royal m'aura fait bien du mal. Il m'aura confisqué au profit de la farce les quelques éléments de comédie que je peux avoir dans la cervelle. J'ai toujours l'espoir et le devoir de faire une pièce pour le théâtre français. » Donc ça aboutit effectivement en 64 avec moi. Il y a une deuxième pièce en 76, La cigale et les fourmis. Mais d'une certaine façon, Labiche ne réussira jamais à conquérir le théâtre français alors qu'il avait vraiment cette envie de respectabilité très forte. Il sera d'ailleurs bien récompensé de façon posthume, puisque tout au long du XXe siècle, la Comédie Française n'a cessé de faire entrer au répertoire des pièces de Labiche. Et puis donc, il y a cette entrée à la Comédie, à l'Académie Française en 1880, alors que Labiche s'est retiré, alors qu'il a fait publier son théâtre complet, enfin complet, 57 pièces seulement.
Sur
176, théâtre qui a montré que son théâtre résistait à la lecture et publication qui a eu cet effet. Et cette élection, elle est intéressante à citer puisqu'elle a été vraiment discutée. Les gens se sont scandalisés que Labiche rentre à l'Académie Française. Et Labiche lui-même, d'ailleurs, a adopté une attitude très modeste lorsqu'il a été reçu sous la coupole.
Victor Hugo n'a pas voté pour lui.
Non.
Mais Zola et Flaubert, qui n'étaient
Zola
pas de cette enceinte, étaient des admirateurs de Jeanne Labiche, comme vous, Jean-Claude Yon, votre histoire du théâtre à Paris, chez Aubier. Enzo Labori à la technique, Linka Negulesco pour la préparation et la réalisation. Je l'ai déjà dit, Stéphane Ronxin.